Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Louis.
Nova.
Nova.
J'ai horreur de parler. Je crois que c'est pour ça que j'écris. Je pense que je m'y fais avec le temps. Mais j'ai longtemps eu beaucoup de mal à parler, en fait. J'ai souvent eu l'impression de ne pas savoir parler, de ne pas parler correctement, de ne pas savoir exprimer ce que je ressens, ce que je veux, ce que je suis. Donc j'ai un rapport assez particulier avec la parole.
Ça me plaît d'inaugurer ce podcast sur la parole par quelqu'un qui n'aime pas parler. Fatima Das a 24 ans, elle est écrivaine, enfin c'est un pseudonyme, mais on l'appellera par ce pseudonyme sous lequel elle publie son premier roman, La Petite Dernière. Et puis Fatima Das, c'est aussi le nom de l'héroïne du roman. Une héroïne qui décrète « J'ai longtemps pensé que les choses se ressentent, plus qu'elles ne se montrent, des restes de mon éducation montrés par petites touches, mais ne jamais dire ». L'écrivaine et son héroïne ont pas mal de points communs. Deux femmes qui grandissent à Clichy-sous-Bois, deux femmes musulmanes et croyantes, deux femmes lesbiennes, deux femmes qui ont grandi dans les silences et qui essaient de parler à travers l'écriture, puisque l'héroïne écrit aussi un livre, comme la romancière. Et toutes deux restent habitées par des non-dits. Mais est-ce qu'on peut vraiment tout dire quand on a grandi baigné dans les silences? Balancer les vérités d'un coup, un beau jour, comme paraît-il on doit arracher les pansements? Je suis Charlotte Pudlewski. Bienvenue dans Fracas.
Je pense qu'on concilie pas les deux. En fait, on peut jamais complètement concilier les deux. En tout cas, je parle de Fatima. Je pense qu'elle arrive pas à concilier les deux. Et du coup, l'histoire c'est pas une solution quoi. Enfin, y a pas de solution à la fin de coming out ou de je suis heureuse en étant lesbienne et musulmane.
Quand est-ce que vous en avez parlé la première fois à quelqu'un?
Je crois que j'en ai parlé la première fois à ma psy. Au bout de, je sais pas, d'un an de thérapie. Et je l'ai pas dit. J'ai pas dit je suis lesbienne. Je sais pas trop ce qui m'arrive. Je me demande si ce que je ressens c'est de l'amour ou si j'aime les femmes. Et c'était difficile à dire et j'étais dans tous mes états.
Vous aviez quel âge?
18 ans.
Et entre vos, je sais pas, 6-7 ans, où vous commencez à imaginer que peut-être il y a quelque chose de différent de la norme qu'on nous propose, en tout cas, et vos 18 ans, vous en avez parlé à personne?
Non, j'en ai parlé à personne. J'en ai parlé à personne, je m'en suis pas parlé et j'ai pas écrit là-dessus. Et en le disant à ma psy, progressivement, j'en ai parlé à quelques personnes. Et puis après, maintenant, je le crie un peu sur tous les toits. Mais parce qu'il y a un truc qui veut ressortir. Et c'est, voilà, une fois qu'on libère la parole, on a envie de garder cette parole et de le dire, enfin, ouais, de le montrer. Parce qu'on a tenu trop longtemps dans le silence.
Et vous le criez où, par exemple?
Bah, par exemple, au boulot, j'ai deux drapeaux, le drapeau algérien et le drapeau LGBT. Et ça dit quelque chose. Et puis tout le monde le sait. Enfin, voilà, maintenant, je... Souvent, on me demande si à Clichy-sous-Bois, les gens savent que je suis lesbienne. Et je réponds, ben oui, il n'y a aucun problème avec ça, en fait. Les moments où en fait, t'as l'impression que t'es pas lesbienne et musulmane, c'est pas à Clichy-sous-Bois, mais c'est ailleurs. Ça peut être dans le milieu LGBT, comme ça peut être... Enfin, voilà. T'as l'impression que tu dois rendre des comptes par rapport à ta croyance. Parce qu'on te pose beaucoup de questions aussi. De la famille, Qu'est-ce qui va se passer? On va t'outre à la porte, on va te détester toute ta vie. Mais comment tu fais pour croire en un dieu? Regarde le monde dans lequel on vit. Enfin voilà, et c'est en fait c'est difficile de recevoir ça. Et en fait, les gens pensent qu'ils donnent juste leur opinion, mais c'est ultra violent en fait. Quand t'es croyante, qu'on vienne te dire ça, moi, enfin, je dis pas aux non-croyants, mais c'est vous êtes teubés ou quoi? Vous croyez que ce monde il existe comment? Je le dis pas, enfin voilà. Et je le pense pas d'ailleurs, mais voilà, c'est difficile, je trouve. À Clichy-sous-Bois, justement, c'est mais on n'en parle pas et on l'accepte après avoir grandi, quoi, avec des personnes adultes. C'est vrai qu'à l'adolescence et tout, c'est difficile parce que tu sais pas ce que c'est et parce que t'as l'impression que t'es la seule. Mais en tout cas, il y a vraiment un respect et beaucoup de tendresse.
À quel moment vous avez commencé à écrire?
Je crois que j'avais 15 ans, quelque chose comme ça. J'ai commencé à écrire réellement quand ma petite cousine de 4 ans est morte. Ça m'avait perturbée parce que c'est pas un enchaînement normal.
Elle est morte de quoi?
Elle est tombée d'un toit en Algérie. Et ça m'avait vraiment choquée en fait. Ça m'avait vraiment choquée parce que... Bah parce que je savais pas ce que c'était la mort et que bah ça allait pas dans le sens que dans lequel je pensais et je comprenais pas, donc je lui ai écrit des lettres et pendant un moment, et en fait j'ai commencé à me livrer à cet enfant mort et bah j'ai continué à écrire, et puis au lycée j'ai fait des ateliers d'écriture où j'écrivais de la fiction. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y avait cette nécessité-là et que j'ai écrit un texte pendant mes années d'études au sein du master de création littéraire. Et que j'ai écrit sur mon rapport à la religion et que je n'avais jamais fait ça avant.
C'était une commande de vos profs d'écrire là-dessus?
En fait, on travaillait avec mon groupe sur la contre-fiction liée à l'islam. Et on s'était donné entre nous la première consigne, parler de notre rapport à l'islam, donc qui était complètement différent, le mien, des leurs. Et du coup, on s'est fait lire les textes et mon prof m'avait dit « Est-ce que je peux le lire ?» Je lui ai dit « Oui, je vous l'envoie. » Donc je ne l'ai pas envoyé le premier jour, le lendemain il m'a redemandé. Je lui ai dit « Oui, je vous l'envoie. » Je l'ai envoyé et du coup, le lendemain, il m'a dit « En fait, ton projet, il est là. » Et tu devrais continuer, et que j'ai dit au début, mais vous êtes des grands malades, et que je ne l'ai pas fait, et que j'ai écrit pour moi, et qu'ensuite j'ai montré mon texte. Et finalement, ça a donné ce roman, et voilà, maintenant, on y est.
Au moment de le publier, vous vous êtes posé la question de le faire sous votre vrai nom, ou c'était une évidence qu'il fallait le faire sous pseudo?
Si, je me suis posé la question, parce que... J'avais aussi envie, au début, j'avais envie que mon nom apparaisse sur mon roman. Mais après, j'ai déconstruit le truc comment dire? Après, je me suis dit que c'était plus important, le pseudo, que de garder mon prénom, mon nom de famille. Parce que de toute façon, c'est l'écrivaine et c'est pas moi, tant que personne, en fait. Je sais pas si c'est clair, mais...
Comment ça?
C'est l'écrivaine. Du coup, je me suis dit, je mets le nom de l'écrivaine. Et je mets le nom de la narratrice parce que je vais porter cette histoire. Et moi, je suis quelqu'un d'autre encore. En vrai. Je suis plein d'autres personnes. Et du coup, voilà, il fallait que je trouve un pseudo. Donc, j'ai pris ce pseudonyme pour vraiment parler de cette histoire et pouvoir la porter correctement. Et aussi pour me protéger et protéger les autres.
Pour les protéger de quoi?
Bah de l'exposition. D'être exposé aux autres, d'être exposé à des choses qui les concernent, à des gens, à des mondes qui les concernent pas.
Donc concrètement, vous aviez peur du jugement d'un monde sur l'autre? Vous aviez peur de faire du mal à des gens?
Bah quand on écrit, on fait toujours un peu du mal, donc oui, j'avais peur. Enfin, Je pense qu'au début, je me rendais pas forcément compte, et plus j'allais vers la fin du roman, et plus je me questionnais sur ce que ça pouvait faire à des personnes qui pouvaient se reconnaître. Et je pense que c'est pas facile de se reconnaître dans un roman, même si y a aussi de la fiction. Et c'est pas forcément ce qu'on en dit, c'est se retrouver dans un roman. Et on va pas se le cacher, ça parle d'islam, et l'islam, ça fait du bruit. Et voilà, ça parle de trop de choses qui peuvent être instrumentalisées.
C'est de ça que vous avez peur ? Vous avez peur que ce thème-là soit instrumentalisé ?
J'ai peur de deux choses. En ayant écrit ça, j'ai eu peur de que la communauté musulmane voit ce roman comme un roman qui tente de réformer la religion, parce que c'est pas ce qu'il dit, ce qu'il veut. Et dans un autre sens, j'ai peur qu'on voit ce roman comme si le personnage était encore dans une homophobie intégrée. Je sais pas si c'est très clair, mais ça, c'est mes deux peurs, en fait, des deux communautés, à la fois la communauté LGBT et la communauté musulmane. Et pour moi, ce roman, c'est juste comment tu te construis en étant plusieurs choses, ou plusieurs, en ayant plusieurs facettes, et parfois des éléments qui semblent contradictoires. C'est tout, en fait.
Et donc, votre famille sait pas que vous publiez un roman ?
Si, ma mère sait, mes sœurs aussi. Elles savent et elles sont très contentes.
Elles savent sur quoi c'est, elles savent le pseudo, elles savent que c'est sous pseudo.
Oui, elles savent que c'est sous pseudo, toutes. Ma mère, elle sait pas forcément tout ce qu'il y a dedans, mais on a dealé ensemble, avec les non-dits, et avec la petite parole qu'on arrive à se transmettre. Voilà.
Et vous, est-ce que vous avez dit à vos parents que vous aimiez les femmes ?
Eh bien, non. Non, je ne leur ai pas dit, mais parce que ça m'appartient. Et parce que je ne ressens pas le besoin ni l'envie. Si à la fin du roman, Fatima ne le dit pas à sa mère, c'est aussi parce que elle respecte son choix, elle respecte le fait qu'il y ait ce silence qui les protège mutuellement. Mais la mère, elle comprend tout, en fait. La mère, elle comprend tout dans le bouquin, et c'est juste que on parle jamais clairement. On parle jamais directement. Mais elles se comprennent, et c'est ce qui importe, en fait. Moi, j'ai mis du temps à parler, et à aimer parler, ou à être à l'aise en parlant. J'ai toujours parlé avec mes amis, mais jamais de moi. Enfin, je ne me suis jamais vraiment confiée complètement à mes amis, par exemple à l'adolescence, etc. Mais avec le temps, je pense que j'y arrive mieux. Et ça, c'est cool, ça fait du bien. Après, j'ai l'écriture, j'ai rencontré l'écriture. Hyper cliché, ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que ça m'a appris à parler. Et ouais, c'est vraiment en écrivant où je me suis dit, t'es en fait, au bout d'un moment, t'es obligé de te confronter aux autres, de te confronter à toi-même, et l'écriture, ça permet ça. Ça t'oblige, en fait, à un moment donné, à te regarder, à regarder les autres et à regarder le monde. Et voilà, après, t'en parles. Et là, j'ai écrit ce bouquin et j'ai envie d'en parler. C'est pas facile, mais j'ai envie d'en parler.
Fatima Das publie La Petite Dernière aux éditions Noir sur Blanc. Merci à elle d'inaugurer cette série. Je suis Charlotte Pudlowski et ce premier épisode de Fracas a été réalisé par Anna Buis et mixé par Tristan Mazir, produit par Louis Média et Radio Nova. Et vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast et m'écrire à hello@louismedia.com. À très vite.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Bonjour, je suis Marine Revol et je présente Fête des Gosses, le podcast de Louis Média qui vous aide à traverser la jungle de la parentalité. Dans Fête des Gosses, je démêle notamment le vrai du faux de l'éducation positive ou de la chasse aux écrans. Et je me demande par exemple, comment ne pas refiler nos casseroles et nos traumas à nos enfants. Vous y entendrez des sociologues, des psys, des philosophes et des parents. Et la nouveauté cette saison, c'est que je donnerai de plus en plus la parole aux enfants. Fête des Gosses est dispo partout. Bonne écoute.